Vous avez eu mon gendre, vous avez eu ma sœur, et maintenant il faut me supporter. Voilà, bon. L'heure est déjà un peu avancée, mais je crois que la parole du Seigneur est importante pour chacun d'entre nous. Prions encore. Père, nous nous attendons à toi. Nous sommes reconnaissants de ce que tu fais au travers de tes enfants. Et nous te demandons aussi de bénir ta parole pour chacun d'entre nous, de nous édifier, Seigneur, de nous donner aussi une vision d'avenir claire pour nous et pour notre Église. Amen. Il y a quelques jours, j'avais annoncé que j'allais parler d'un thème, et après je me suis fait peur, je me suis dit non, c'est pas pour toi, c'est un peu compliqué. Et cette semaine, j'ai attendu que le Seigneur me donne une parole et il n'y a rien d'autre qui est venu. À partir de jeudi, j'avais la conviction, il fallait parler de cela. Luc 24, les versets 44 à 49, c'est après la résurrection. Jésus rencontre les disciples et juste tout à la fin de l'évangile de Luc, il est dit au verset 44, il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Nous allons faire un saut dans Acte 1, les versets 4 à 8. C'est le même contexte, c'est de nouveau Luc qui écrit. Il reprend pour démarrer le livre des Actes. 4 à 8. 1, 4 à 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps, les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Cette parole nous parle, nous annonce que nous serons revêtus de la puissance d'en haut. La puissance d'en haut. Vous serez baptisés du Saint-Esprit dans Actes 1, 5. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le verset 8, comme on a entendu. Les disciples ont attendu la réalisation de cette promesse. Ils sont réunis dans la chambre haute où ils se tenaient d'habitude. D'ordinaire, il est dit dans ce passage, quand ils partent du mont des Oliviers, quand Jésus est monté au ciel, ils retournent dans cette chambre haute où ils avaient l'habitude de se réunir. Et donc, probablement, ils sont aussi dans le lieu où ils ont l'habitude de se réunir, c'est cette chambre haute. Quelque chose se prépare. Dans Actes 2, 1 à 4, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, donc certainement cette chambre haute. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le Saint-Esprit qui vient sur l'Église. Alors, j'ai une question. Vous connaissez la première mention, la première intervention du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament ? C'est une question. Exactement. L'ange dit à Marie, tu seras enceinte, le Saint-Esprit te couvrira. Impressionnant. Luc 1,35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Sans l'intervention du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, Jésus n'aurait jamais pris la forme d'un homme pour s'approcher des pécheurs. Dieu devait s'incarner tout en restant Dieu. C'est pourquoi il y avait cette servante, cette femme, Marie, que personne ne connaissait, et puis Dieu qui envoie son esprit sur elle. Marie n'a certainement pas tout compris ce jour-là. Hein ? Comment c'est possible ? Une annonce pareille n'est pas compréhensible. Mais Marie a dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon la parole, selon ta parole. » Pour les incroyants, cette conception miraculeuse n'est pas recevable. J'ai entendu souvent des boutades, ou vraiment presque des insultes. Ce n'est simplement pas rationnel. On dit, elle est enceinte, elle a fait quoi ? Hein ? Et là, la Bible nous dit, c'est par le Saint-Esprit. Première intervention de l'Esprit-Saint dans le Nouveau Testament. Avons-nous l'attitude de Marie pour accepter la puissance de Dieu sur nos vies ? Qu'il me soit fait selon ta parole. Dans Ésaïe 63, le verset 15, il est dit « Où sont ton zèle et ta puissance ? Le frémissement de tes entrailles et tes compassions ne se font plus sentir envers moi. » Parfois, quand nous lisons dans les Actes, nous avons envie de vivre ce que les apôtres ont vécu par rapport au Saint-Esprit. Et là, Ésaïe dit « Où sont ton zèle et ta puissance ? » Il s'adresse à Dieu. Le frémissement de tes entrailles, tes compassions ne se font plus sentir envers moi. Peut-être on peut aussi retourner la phrase et dire que c'est Dieu qui demande au peuple. Sommes-nous dans la même attente de l'action de l'Esprit, par la puissance de l'action du Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit ? Comme les disciples à Pentecôte, ils attendaient quelque chose. Il y avait une promesse. Ils ne savaient pas exactement comment ça se passait. Sommes-nous encore en attente ? Avons-nous loupé quelque chose ? Dans Actes 2, les versets 17 à 21, il nous est dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Ils prophétiseront. » Je ferai paraître des prodiges en haut, dans le ciel, et des miracles en bas, sur la terre. Du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le ciel se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est Joël qui a cité ça et c'est Pierre qui en parle. Lors de sa prédication de Pentecôte. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. Avons-nous encore des attentes par rapport au Saint-Esprit ? prophéties, visions, songes, prodiges, miracles, aussi questions de jugement, salut. Ce sont là des signes qui accompagnent les serviteurs de Dieu. Et je me demande parfois si nous ne passons pas, si nous ne nous passons pas très souvent de cet outil, si nous ne nous passons pas très souvent de l'outil du Saint-Esprit. Cet outil que Jésus a promis aux siens pour un service efficace. Car c'est avant tout un instrument pour le service envers les autres. Il n'est pas donné pour notre gloire, pour que nous fassions un festival à notre honneur. C'est un assistant, un instrument pour le service entre nous et vers l'extérieur. Nous avons quelques méthodes rationnelles. Nous avons nos méthodes rationnelles, notre logique, c'est sécurisant. Nous savons faire. Quand l'Esprit nous saisit, il prend la direction de nos chemins. Comme Philippe, dans Acte 8, au verset 39, il est poussé par l'Esprit dans le désert pour rencontrer cet eunuque. Et à un moment, il a baptisé cet eunuque sur sa profession de foi. Et à un moment, l'Esprit enlève Philippe, il se retrouve ailleurs, à Azote. C'est impressionnant. L'Esprit le prend, il a affaire ailleurs, c'est lui qui dirige la vie de Philippe. J'aimerais utiliser une image. L'Église comme un grand voilier, vous voyez ces trimâts, ces trois mâts, les grands voiliers de l'époque, c'était formidable. Si le vent souffle plus fort, l'Église parfois, pour maîtriser notre course, elle replie les voiles. Et par sécurité, on laisse les voiles enrouler et on s'efforce d'avancer à la rame. Souvent, c'est un peu l'impression que j'ai de nos vies chrétiennes. On avance en sécurité et on n'avance pas vite quand on rame sur un voilier qui normalement est fait pour être poussé par le vent. Un vrai marin cherche les alizés, cherche le vent. Et dès le premier souffle, il hisse le maximum de voiles pour profiter de cette puissance gratuite. Le vent est gratuit. Sa plus grande crainte, c'est quoi ? C'est de se retrouver, comme on entend parfois, dans le pot au noir, le poteau noir, comme ils disent parfois. Donc, c'est une zone dans l'Atlantique, mais j'ai vu, ça fait le tour du monde, pratiquement sur tous les océans, un endroit où souvent, il n'y a pas de vent. Et les marins du Vendée Globe et autres, quand ils rentrent là-dedans, ils ne savent pas quand ils vont ressortir, parce que ça peut durer longtemps. C'est la hantise, la crainte de ceux qui sont dans la course. Nous sommes censés être dans la course avec le Seigneur. Je me souviens, on a parfois vu des films de pirates où les goélettes, les navires, étaient immobiles sur une mer de plomb et tout le monde languissait après le premier petit souffle de vent. Le poteau noir, ça peut parfois se passer dans nos vies, mais ce n'est pas toute la vie qu'on y reste, n'est-ce pas ? Parfois, il y a des périodes où il ne se passe rien, mais le Seigneur donne son souffle. Parfois, on ne le sent pas, mais c'est quand même normal, il l'a promis, que ce soit son souffle qui nous fasse avancer. Et donc, il y a toujours un marin qui est prêt, si jamais il y a une petite brise, tout le monde au voile, on remet les voiles en place pour repartir. Une autre image, c'est comme un avion sans carburant. Soit on est encore sur le tarmac, on a tout le confort à l'intérieur, mais on ne part pas. Ou alors, on est en l'air et il n'y a plus de carburant et on peut juste encore planer le temps que ça plane. C'est juste deux images. 1 Corinthiens 12, 31 nous encourage « Aspirez aux dons les meilleurs ». Après, les dons, vous pouvez les lire vous-même. Aspirez aux dons. Il n'est pas dit « craignez les dons ». Jésus a promis le Saint-Esprit. Et dans Actes 2, 33, il est dit « Élevé par la droite de Dieu ». Il a reçu du Père le Saint-Esprit et l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. C'est encore dans le message de Pierre pendant son message de Pentecôte. Il a reçu du Père le Saint-Esprit et il l'a répandu comme vous le voyez et vous l'entendez. Là, c'était visible. Et il a donné des langues que les peuples autour pouvaient comprendre. Et eux-mêmes n'avaient jamais appris ça. C'était un miracle. Le message de Pentecôte de Pierre est inspiré, insufflé par le Saint-Esprit, et il touche vivement les cœurs. Dans Actes 2, 37, 40, il est dit, « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » La prédication de Pierre a suscité, non pas seulement de l'intérêt, mais vraiment une question parmi le peuple. Que devons-nous faire pour être sauvés? Et Pierre, ça s'est inspiré aussi, qui dit « Repentez-vous, la première chose, reconnaissez que vous êtes pécheurs, repentez-vous, reconnaissez-le et demandez pardon. Faites-vous baptiser. » Ici, c'était tout simple. Repentez-vous, faites-vous baptiser. C'était pratiquement un ordre. Au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Sauvez-vous de cette génération perverse. Le message est court que nous avons à apporter à nos contemporains, mais c'est ça. Repentance, recevoir le pardon, se faire baptiser pour le pardon de vos péchés et recevoir le Saint-Esprit. Et c'est la vie nouvelle. Ce n'est pas une petite amélioration qu'on cherche, c'est la transformation. Peut-être quelques-uns d'entre nous sont encore au stade de Corneille dans Actes 10. Vous connaissez cette histoire, je résume, ou je ne résume pas, je lis les deux premiers versets. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier, dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. C'est un homme à qui on donne le paradis sans confession, n'est-ce pas? Il priait, il faisait l'aumône, il était pieux et c'était vraiment quelqu'un de bien. Et malgré tout, Dieu lui demande d'appeler un certain Pierre pour qu'il aille plus loin. Parce que la propre piété, les œuvres, les bonnes œuvres, ne suffisent pas. Corneille est pieux, mais à partir Dieu lui fait rencontrer Pierre et Pierre lui annonce le plan du salut. Les versets 42 à 44 du chapitre 10, il nous est dit « Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple » Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Corneille a aussi vécu un bouleversement. C'était un homme religieux, très pieux, très bon, mais ici, Dieu le visite. Corneille entend le message complet et le Saint-Esprit descend sur lui et sur sa famille et ils se font baptiser. Face aux ténèbres qui progressent, nous avons besoin de toute la puissance de Dieu. Et nous voyons que notre monde s'obscurcit. Dans Acte 4, Pierre et Jean sont accusés, emprisonnés, mis sous pression, battus. On a tenté de les museler. On vous interdit de parler de ce Jésus à partir d'aujourd'hui. De retour parmi leurs frères, ils prient Dieu en louant Dieu. Ils exposent leur situation, Acte 4, 29 à 31. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Là, ils ne rament plus. Là, c'est le souffle de l'Esprit qui les pousse. Parce que normalement, quand les deux têtes de l'Église naissante sont emprisonnées, sont maltraitées, on baisse un peu le volume, on réduit un peu la voilure pour ne pas se faire remarquer. Mais ici, ils ont l'assurance. Le lieu où ils sont, où ils prient, tremble. Il n'y avait pas de fissure, je pense, mais ça secouait. Et tous ceux qui sont présents, remplis du Saint-Esprit, annoncent la parole de Dieu avec assurance. Au contraire, on ne va pas se laisser museler. Avec une plus grande audace, ils sortent. Et une autre fois où ils sont emprisonnés, ils sont relâchés, ils sortent par miracle et ils ne se cachent pas. Le Seigneur leur dit, demain vous retournez au temple. Et ils continuent à prêcher alors qu'un jugement les attendait. Ils continuent à parler. Et tout à coup, ceux qui voulaient les maltraiter ont quelques soucis. Parce que le peuple voit ce qui se passe et ils ne peuvent pas se permettre de continuer de dire, voilà, ils n'ont rien à faire avec Dieu, notre religion c'est la bonne. Dieu a attesté qu'eux, ils sont vraiment ses serviteurs et c'est l'œuvre de l'Esprit. Alors, moi je voudrais arrêter avec ce message, nous n'avons expressément pas encore fait de moment de prière. J'ai juste quelques questions. Que nous inspire ce message? Avons-nous besoin du souffle de l'Esprit? Cet assistant puissant, promis, envoyé par Jésus? Il n'y a pas de formule magique, il faut passer par ci ou ça. Faites connaître à Dieu vos besoins avec des supplications et des actions de grâce, dit Éphésiens 4, 30. Simplement, nous pouvons demander au Seigneur de nous équiper. Parmi nous, dans l'Assemblée, le Seigneur veut encore donner des dons, mais pour ça, il faut lui demander. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Négligez le Saint-Esprit par peur, c'est l'attrister. Si vous avez une personne qui est à côté de vous, que vous aimez et que vous pourriez aider, mais qui ne sollicite pas votre aide, c'est frustrant, c'est attristant. Et quelque chose d'encourageant, c'est Jésus qui dit, quand vous demandez à votre Père terrestre un poisson, il ne vous donnera pas un serpent. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de prier le Seigneur pour qu'il équipe notre assemblée, pour que nous puissions, comme du temps des Actes, être une église efficace par le souffle de l'Esprit. Je vous propose ce moment de prière en commun, je le clouerai et Denis prendra la suite. Mais sentez-vous vraiment libre et si le Seigneur vous indique qu'il faut prier, allez-y.